Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à toutes et à tous. Nous entamons le joli mois de mai. Fleurs et feuilles sont de retour, tandis que la neige faisait sa réapparition de manière un peu désordonnée. Eh bien, certains d'entre vous, sans doute, ont dû profiter des pics de chaleur pour rejoindre la mer et les plages. Profitons donc des jours présents, parce qu'on ne sait pas de quoi va être fait l'été. Le changement est vraiment à l'ordre du jour et les chercheurs craignent un été torride, puisque El Niño devrait revenir renforcer les chaleurs en augmentation constante. Notre vaisseau Terre est fêté le 22 avril. À cette occasion, un petit bilan a été fait. En 5 images, la revue Futura nous donnait à voir ce qui avait vraiment bouleversé notre monde depuis la première édition du Jour de la Terre en 1970. Grâce aux archives photographiques et à plus d'un demi-siècle d'images satellitaires, il est désormais possible de remonter le temps et de voir que certains bouleversements sont bien plus marquants qu'on ne le pense. Les changements sont pour beaucoup bien sûr dus au réchauffement, puisqu'entre 70 et 2026, la hausse des températures mondiales s'est nettement accélérée. Ce réchauffement, principalement lié aux émissions humaines de gaz à effet de serre, n'est pas uniforme. Les terres se réchauffent plus vite que les océans et certaines régions connaissent des pics spectaculaires. Mais indéniablement, la montée des eaux est mesurable. La banquise arctique a presque disparu. Observée par satellite depuis 1978, elle recule de façon continue avec une accélération marquée depuis le début du XXIe siècle. La glace ancienne et épaisse disparaît au profit d'une glace saisonnière plus fragile. Autre évidence, en 56 ans, les glaciers du monde entier sont devenus l'un des symboles les plus visibles du réchauffement. Eh bien déjà, vos petits-enfants ne verront plus le monde qu'ont vu vos parents. D'un continent à l'autre, la fonte des glaciers s'accélère et certains disparaissent presque totalement. La semaine dernière, nous avions annoncé la rencontre de Santa Marta en Colombie. Une cinquantaine d'États ont participé à cette conférence inédite sur la sortie des énergies fossiles qui tente de contourner la paralysie des COP onusiennes. La réunion a été snobée par les grands émetteurs que sont la Chine, les USA et la Russie. Alors, sera-t-elle sans effet pour autant ? Ben non, nous dit la ministre colombienne Irene Vélez-Torres qui propose sa vision, c'est-à-dire une autre façon de voir les choses. Lorsque les plus gros émetteurs ont été présents aux négociations, dit-elle à l'agence France-Presse, ce sont eux qui ont brandi le veto pour empêcher tout débat sur la nécessité d'aller au-delà des énergies fossiles. Aujourd'hui, donc, cela vaut la peine de se concentrer sur les 50 pays présents à Santa Marta, qui représentent près de 50% de la population mondiale. Ces États forment une nouvelle puissance. Bien sûr, Santa Marta ne remplacera pas les COP qui, dans le cadre du multilatéralisme, rassemblent le monde entier. Mais c'est un coup d'accélérateur, une contribution à cet agenda par l'action qui se dessine. Un exemple. À Amsterdam, toutes les pubs promouvant les énergies fossiles, par exemple, seront interdites à partir du 1er mai. En France, cela voudrait dire la fin de certaines pubs pour EDF, pour Total, pour Engie. Ces grands groupes, d'ailleurs, ont prévu ces possibles contraintes et ils ont créé en leur sein un secteur énergie renouvelable. Mais la rencontre de Santa Marta s'est achevée avec une lettre d'engagement des villes attendue par la COP31 en Turquie. Un engagement renouvelé des villes qui ont modifié leur plan de transport, qui mettent en avant les énergies renouvelables, qui réaffirment leur engagement collectif à réduire de moitié l'utilisation des énergies fossiles d'ici 2030. Le mouvement est donc en marche. Les zones urbaines représentent 75% des émissions mondiales liées à l'énergie, ce qui rend leur action locale essentielle aux progrès globaux. Il y a 15 jours, nous avions évoqué sur cette antenne, avec Yves Lenoir, les 40 ans de l'accident de Tchernobyl qui a forcé l'évacuation de villes entières, provoquant le déplacement de dizaines de milliers de personnes. Ce fut la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. Yves Lenoir, avec d'autres militants, poursuivent aujourd'hui le suivi des enfants malades des radiations et qui sont soignés à l'Institut Belrade. À l'occasion des 40 ans de cet accident, de nombreux documentaires ont été diffusés. Vous les avez vus sur Arte, France 2, France 5. Tous rappellent le déroulement de cette sinistre explosion. Au cinéma Utopia, à Montpellier, le réseau antinucléaire 34 nous invitait dimanche 26 avril à la vision du film La Terre outragée. J'ai trouvé que c'était un très beau film, tourné il y a une dizaine d'années, qui nous conduit aujourd'hui dans la vie des hommes et des femmes qui ont quitté Pripyat, mais qui restent attachés à la terre de leur naissance. Une terre où ils n'ont plus le droit de vivre 40 ans après l'accident et que des touristes internationaux viennent visiter afin de comprendre. Ils sont devenus des guides. La zone d'exclusion autour de la centrale de Tchernobyl reste trop dangereuse pour l'homme, mais la faune s'y est réinstallée. Les loups rôdent désormais dans le vaste no man's land qui s'étend de l'Ukraine à la Biélorussie et les ours bruns sont revenus. Les populations de lynx, d'élans, de cerfs rouges et même d'émeutes de chiens en liberté se sont reconstituées. La pression humaine ayant disparu, certaines parties de la zone d'exclusion ressemblent aujourd'hui au paysage européen des siècles passés. La transformation est visible partout. Les arbres percent les bâtiments abandonnés, les routes se dissolvent dans la forêt. Sur une terre contaminée, trop dangereuse pour la vie humaine, les chevaux les plus sauvages du monde sont en liberté. Les chevaux de Przewalski, originaires de Mongolie, qui étaient sur le point de disparaître, ont été réintroduits ici en 1998 à titre expérimental. Ils sont connus sous le nom de Taki en Mongolie, ça veut dire esprit. Leur nom moderne vient de l'explorateur russe qui a été le premier à les identifier officiellement. Des caméras cachées montrent les chevaux en train de s'adapter de manière inattendue. Ils cherchent à s'abriter dans les granges en ruine et dans les maisons abandonnées qu'ils utilisent pour échapper aux intempéries et aux insectes, allant même jusqu'à se coucher à l'intérieur. Les chevaux vivent en petits groupes sociaux, généralement un étalon avec plusieurs juments et leurs petits, ainsi que des bandes séparées de jeunes mâles. Beaucoup sont morts après leur introduction, mais d'autres se sont adaptés. Tchernobyl restera probablement interdit d'accès pendant des générations, trop dangereuse pour l'homme, mais pleine de vie. La recherche sur les animaux à Tchernobyl prend du temps. Et pour limiter l'exposition aux radiations, le personnel scientifique effectue des relations. Quelques chercheurs, dont un Witowski, souvent seul pendant des heures, placent des pièges photographiques sensibles au mouvement des boîtiers, camouflés, attachés aux arbres. Pour ceux d'entre nous qui travaillent dans le domaine de la conservation et de l'écologie, c'est une sorte de miracle, nous déclare-t-il. Mais pourtant, malgré la persistance des radiations, les scientifiques n'ont pas enregistré de mortalité généralisée. Des effets subtils, plutôt. Certaines grenouilles ont développé une peau plus foncée et les oiseaux, qui vivent dans les zones les plus irradiées, développent des cataractes. Alors parfois on a l'impression que finalement on n'avance pas et qu'avec un peu de bon sens, les choses seraient plus simples. Eh bien, je vais vous donner un exemple. La science est absolument nécessaire et parfois on se doute de quelque chose, mais il faut la science pour permettre aux politiques de prendre une décision. Et ainsi, grâce à la science, parce qu'on ne mesurait pas ce que l'on cherche à connaître dorénavant, on commence à savoir et on agit. Constat et recherche ont apporté la connaissance. C'est le cas pour la biodiversité. On s'en doutait, mais c'est désormais prouvé. On a 72% de biodiversité en plus dans les fonds, hors sable ou roches. Les espèces dites fondatrices, comme les coraux, les mangroves, les herbiers ou les grandes algues, comme les laminaires dont on a parlé d'ailleurs quand on a parlé des herbiers de Posidonie, jouent un rôle essentiel dans la structuration des paysages sous-marins côtiers. C'est ce qui ressort d'une étude de l'IFREMER et de l'Université de Bretagne occidentale, réalisée dans le cadre du projet Triton. À cette étude, quantifie pour la première fois l'apport de ces espèces. En moyenne, ces paysages sous-marins accueillent 72%, on l'a dit, de biodiversité de plus. L'étude révèle également que chaque espèce fondatrice héberge une faune qui lui est propre, ce qui renforce son rôle irremplaçable dans la biodiversité côtière. Et c'est ce qui permet évidemment de montrer son intérêt. Ces avancées permettront de mieux anticiper les transformations des écosystèmes et elles permettront d'adapter nos actions de restauration. À plus long terme, face aux changements climatiques en cours, elles permettront d'identifier en amont des espèces capables de remplacer celles qui sont amenés à disparaître dans les années futures. Alors, puisqu'on parle biodiversité, vous avez peut-être vu au journal télévisé les images de ce crocodile mort, entravé d'une grosse chaîne. Il avait été jeté au fond d'une rivière. Enfin, tout cela, c'est France Inter, à Roubaix, directement, qui nous le raconte.
Dimanche après-midi, un homme de 28 ans pratiquait la pêche à l'aimant dans ce canal de Roubaix. Il raconte sa prise insolite sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux.
J'ai jeté mon aimant. J'ai vu un truc lourd, bizarre. J'ai ouvert, il y avait ça. En plus, ils l'ont lesté. Il était enfermé dans ça, un sac de couchage.
L'animal dégageant une forte odeur de putréfaction était en état de décomposition avancée, mort probablement depuis plusieurs jours, peut-être même 2 ou 3 semaines. Un crocodile mort placé dans un sac de couchage lesté par des chaînes en fer, la nouvelle sur les berges du canal laisse perplexes les passants. D'où vient l'animal? Qui s'en est débarrassé de cette façon? Et surtout, y a-t-il d'autres crocodiles détenus en captivité illégale dans la région? Le parquet de Lille a ouvert une enquête pour fait de maltraitance animale et chargé le commissariat de Roubaix de mener l'enquête. En attendant, la dépouille a été confiée à l'antenne locale de la Ligue de protection des animaux qui a identifié un caïman à lunettes, originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud.
C'est des animaux qui sont interdits à la détention. Il faut avoir un certificat de capacité. Il faut déclarer aux autorités ce type d'animaux. Et bien sûr, c'est un animal qui est très dangereux.
Les contrevenants à la législation risquent jusqu'à 2 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
Suite à cet incident, les forces de l'ordre ont enquêté et se sont aperçus qu'un trafic important de crocodiles se déroulait au sein de nos frontières. Quand ils sont petits, ils sont tout mignons. On les rapporte cachés au fond d'une valise. Souvent, ils viennent du Nil et d'Égypte. Puis, ils grossissent. Ils prennent de la place et des dents. Alors, il faut s'en débarrasser. Et la survie des crocodiles ne se limite pas à la gestion d'un trafic souterrain. Régulièrement, les élevages destinés à la fourniture des pots qui alimentent l'industrie du luxe sont l'objet de manifestations. À l'occasion de l'Assemblée générale du groupe LVMH, un aborigène australien, Denis Imberland, a interpellé le PDG Bernard Arnault. Denis Imberland a travaillé dans un des 20 élevages australiens qui fournissent 60% du marché mondial. Aujourd'hui, il a troqué les abattoirs pour une caméra et documente la vie des crocodiles sur les terres traditionnelles des peuples Mirigong et Gajrong où il vit. Son travail met en lumière la beauté et la dignité de ces animaux emblématiques qu'il s'efforce désormais de protéger et qui seront le sujet du documentaire Skin Deep qui explore l'impact de l'élevage de crocodiles sur la conservation. Alors que de nombreux créateurs ont déjà banni les peaux d'animaux sauvages, Denis Imberlang adresse un message. S'il vous plaît, monsieur Arnaud, fermez les élevages intensifs de crocodiles de la LVMH et interdisez l'utilisation de peaux d'animaux sauvages.
Les peaux de serpents ou de crocodiles qu'on utilise pour faire des sacs, des chaussures, des ceintures. Je suis allée faire un tour sur internet ce matin. J'ai vu un bracelet en alligator chez Hermès, une valise aussi chez Berluti, 50 000 euros. Et des sacs, bien sûr, hein, 100% python chez Céline, alligator ou python chez Fendi et croco chez Louis Vuitton. À 17 000 ou 35 000 euros. Et encore, j'ai pas tout regardé. Marque de luxe, vous l'avez compris, qui, à part Hermès, appartiennent toutes au groupe LVMH et que cible une nouvelle fois l'association PETA qui veut protéger les droits de tous les animaux. Elle vient de sortir une vidéo sur un élevage de pitons au Vietnam destiné à faire du cuir. Et pour la description, je laisse faire l'une des porte-paroles de PETA, Anissa Putois.
On y voit des serpents qui sont déjà confinés, mais qui sont ensuite tués de manière absolument horrifiante. On leur ferme les orifices avec des élastiques. Ensuite, ils sont gonflés à mort avec de l'air comprimé. Puis ensuite, écorchés à vif, vraiment.
Voilà, c'est ragoûtant, n'est-ce pas ? Ouais. Les images sont franchement difficiles à regarder. Cette méthode permettrait de détacher la peau plus facilement et d'un seul tenant. Voilà, air comprimé utilisé aussi pour les crocodiles. Ce son vient d'une vidéo où un homme montre comment on fait sur un animal. Crocodile dont PETA parle dans une autre vidéo, toujours au Vietnam, dans un élevage, où ils sont placés dans des sacs puis entassés les uns sur les autres. Et voici la suite.
On voit un ouvrier qui se déplace et qui marche sur eux, qui essaye de les étourdir avec des chocs électriques. Donc ces animaux souffrent quand même quand ils sont ensuite abattus. Et ça, on le voit sur un sol d'abattage plein de sang, des animaux qui sont poignardés, se font sectionner la moelle épinière et qui ensuite sont écorchés et dépecés.
Alors, des enquêtes précédentes de PETA avaient déjà montré des méthodes similaires, que ce soit pour les serpents ou les crocodiles. D'ailleurs, à la suite de l'une d'entre elles en 2015, Jane Birkin avait demandé qu'un sac en croco à son nom depuis les années 80 soit débaptisé par la maison Hermès, chose faite. Hermès mise en cause une nouvelle fois donc par PETA comme LVMH, je vous le disais. LVMH qui se défend. Alors, ils n'ont pas voulu me répondre au téléphone, mais ils m'ont envoyé des éléments par écrit, d'abord au sujet des pitons.
LVMH ne détenant pas de tannerie ni de ferme de pitons ou serpents en propre, nous travaillons en étroite collaboration avec des acteurs de la filière réputés pour leurs bonnes pratiques qui font l'objet d'audits réguliers et de certifications reconnues par le secteur. Nous condamnons fermement, dit LVMH, toute forme de violence envers les animaux vivants. La description de la vidéo de PETA nous a profondément choqués. Elle ne reflète ni nos standards ni nos méthodes. Nous avons immédiatement diligenté une enquête auprès de nos fournisseurs et nous pouvons affirmer qu'aucune des maisons de LVMH ne s'approvisionne auprès de la ferme utilisée dans cette campagne.
Et le groupe rappelle que ses approvisionnements en cuir précieux et fourrure sont soumis à des règles strictes. Il explique dans un autre document intitulé Faits et mythes que les serpents, parce qu'ils sont à sang-froid, peuvent continuer de bouger jusqu'à une heure après leur mort, donnant l'impression qu'ils sont encore vivants. LVMH dit aussi au sujet des crocodiles posséder deux fermes en Australie. Le PDG de Louis Vuitton, qui appartient au groupe, avait déclaré lui en décembre au Télégraphe, je cite, main sur le cœur, je peux affirmer à 100% que nos animaux sont élevés avec humanité.
Et Hermès alors, Camille ?
Alors, eux ne nous ont pas répondu. Je peux vous dire en revanche qu'ils possèdent plusieurs fermes et devraient en Australie bientôt être à la tête du plus grand élevage de crocodiles du pays avec 50 000 reptiles en 5 ans. Réponse de PETA à tout cela.
Souvent, c'est beaucoup de greenwashing, comme on dirait en anglais, c'est-à-dire d'essayer de donner un caractère éthique à quelque chose qui, de manière inhérente, ne peut pas l'être. Il faut absolument que les gens se rendent compte que même si c'est un reptile, je sais que dans l'opinion publique, les gens s'en soucient peut-être un petit peu moins. Ce sont tout de même des animaux qui sont des êtres sensibles, qui souffrent. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye vraiment d'informer, de demander aux consommateurs de ne jamais acheter d'articles en peau exotique.
Sauf que la demande est croissante. Hein. Écoutez bien, même l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, encourage ce commerce. Voici un extrait d'un communiqué du mois d'août dernier.
Les preuves scientifiques montrent que le commerce de ces peaux est en réalité durable, contribue à la conservation et au rétablissement de la faune et soutient les moyens de subsistance des communautés locales. Des espèces autrefois proches de l'extinction se sont rétablies et font l'objet désormais d'une gestion méticuleuse. Le commerce légal encourage les populations à valoriser, à protéger les habitats naturels et les écosystèmes. Cela a pour effet de conserver la biodiversité avoisinante et des services écosystémiques que ces habitats offrent.
Alors LVMH dit laisser libre ses clients d'acheter ces matériaux ou pas. Face à la polémique et au débat autour de la souffrance animale, d'autres groupes ou marques ont renoncé aux cuirs exotiques depuis quelques années déjà, comme Chanel, Hugo Boss ou Calvin Klein.
Alors, puisqu'on parle d'élevage, revenons sur une affaire en cours. Une réflexion intense se mène aujourd'hui autour de l'aquaculture. L'aquaculture, c'est le pire et c'est le meilleur. Le meilleur, puisqu'elle peut fournir les protéines nécessaires à la population mondiale, mais elle est devenue le pire, car en s'intensifiant, elle se transforme en fléau environnemental. Utilisation d'antibiotiques, rejet dans les eaux et propagation de maladies, destruction des milieux naturels comme les mangroves et surtout amplification de la surpêche. Car il faut nourrir les poissons d'élevage par des farines à base de poissons et de crustacés, de bas niveau trophique certes, comme la sardine et le sprat ou le krill. Aujourd'hui en France, la ministre de l'Environnement, Monique Barbu, qui est ancienne présidente du WWF France, consciente des problèmes de surpêche, s'élève contre un projet, le projet Pur Salmon en Gironde. À titre personnel, dit-elle, je ne suis pas favorable. Elle a été interrogée sur le projet de l'entreprise Pur Salmon lors d'une audition au Sénat. Je me bats pour trouver de vrais projets d'aquaculture dans des rivières au bord de nos côtes. Mais Pur Salmon n'est pas un projet d'aquaculture durable. Dans un appel pour l'océan, effectivement, 27 ONG avaient dénoncé ce projet complètement démesuré qui menace l'écosystème de l'estuaire le plus grand et le plus sauvage d'Europe qui pâtirait des rejets de boue au détriment de la pêche et de la conchyliculture locale. Financé par un fonds d'investissement singapourien, la société affirme que sa technologie éprouvée garantit un impact maîtrisé sur la biodiversité, que le bien-être de l'animal est au cœur du projet et que son approvisionnement obéit à des normes strictes, assurant au saumon une alimentation. On retrouve donc toujours les mêmes arguments. Responsable et traçable, bien sûr, cette alimentation. Écoutons l'enquête qui a été menée par le journal Reporter à ce sujet.
En France, une multinationale veut construire ce qui serait potentiellement le plus gros élevage intensif de saumon au monde sur notre littoral français. C'est une aberration écologique et sociale, je vous explique. Alors dans cette usine, les saumons vont être élevés de l'œuf à l'abattage, donc ils vont quand même importer les œufs. Ensuite, les saumons, ils vont grandir dans les bassins, des bassins sur la terre ferme, dans lesquels vont être entassés 3 millions de saumons par an, donc c'est 10 000 tonnes. C'est du jamais vu, il n'y a aucune usine qui produit ce nombre-là dans le monde. Ça a pour conséquence, évidemment, de rajouter du stress aux animaux. Et qui dit stress dit propagation des maladies, qui dit propagation des maladies dit antibiotiques, médicaments. Donc c'est un problème en termes de santé, mais également en termes de souffrance animale. Localement, il y a une opposition citoyenne très très forte, à la fois des riverains, des riveraines, à la fois des pêcheurs, parce que Pure Salmon donc, va rejeter toutes les eaux usées des saumons directement dans l'estuaire. Il faut savoir que cet estuaire, tout le monde en dépend. Les pêcheurs artisans, les conchyliculteurs, donc toutes les productions de coquillages, elles dépendent d'une qualité d'eau impeccable. Le tourisme dépend de cet estuaire, donc sur place, il y a une opposition très très forte. On a peur qu'il y ait des pollutions, des rejets toxiques, etc. Pure Salmon s'est dit, tiens, pourquoi la France ? Parce qu'en France, on est le premier consommateur européen de saumon et on est le quatrième consommateur mondial, donc il y a une très grosse demande. Par contre, 99% du saumon qui est consommé en France, il est importé. C'est aussi sur ça que Pure Salmon va jouer, parce qu'ils vont nous dire, bah, c'est super, on va vous faire un saumon local du Médoc. Sauf que le saumon local du Médoc, il est nourri aux poissons qui viennent de l'autre bout du monde, au soja du Brésil et au krill d'Antarctique. Aujourd'hui, le projet vient de conclure sa dernière phase avant l'autorisation finale. Pendant un mois, l'enquête publique a recueilli l'avis des citoyens et des citoyennes françaises. 20 000 contributions, 98% d'avis négatifs. C'est un record historique en France. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est le préfet qui va devoir donner son autorisation finale ou son refus. On demande un moratoire de 10 ans, donc c'est-à-dire on demande une pause de 10 ans sur ce type d'usine en France pour avoir des vraies études d'impact indépendantes avant d'implanter ce type d'usine durablement en France. Ce qui nous reste à faire, nous, en tant que citoyens et citoyennes, c'est faire tomber la demande de saumon en France, parce que si ce genre d'usine étrangère vient investir des millions d'euros en France, c'est parce qu'il y a une demande très très forte.
Alors effectivement, actuellement, il y a eu une vague, un mouvement vers lequel se penche justement le ministère de l'Environnement, parce qu'une demande très forte est faite sur l'aquaculture avec des chiffres qui dépassent l'entendement. Ici, là, on parle de 10 000 tonnes de saumon. Et c'est pour ça que... Alors, bien sûr, c'est la création de 400 emplois. Mais comme le précise la ministre, je me trouve toujours face au même débat. Environnement et souveraineté alimentaire. En 20 ans, la Chine a planté des arbres à une telle vitesse et à une telle échelle que cela a fini par modifier la circulation de l'eau à travers le pays. Parmi les grands projets de reverdissement du pays, il y a bien sûr l'emblématique Grande Muraille Verte qui a été lancée en 1978 dans le Nord pour freiner l'avancée des déserts. En 50 ans, la couverture forestière est passée d'environ 10% à plus de 25% du territoire, soit une surface équivalente à celle de l'Algérie. D'autres programmes, comme Grain for Green et le programme de protection des forêts naturelles. Tous deux ont été lancés en 1999. Ils ont aussi contribué à faire de la Chine l'un des principaux moteurs mondiaux de la reforestation. À eux seuls, ces efforts représentent un quart de l'augmentation mondiale de la surface foliaire observée depuis le début du siècle. On se rend compte, les chiffres chinois sont toujours gigantesques. Mais d'après une étude publiée dans la revue Earth of Future par 6 chercheurs chinois et un autre hollandais, les efforts pour lutter contre la désertification et le changement climatique ont des effets inattendus. Nous constatons que les changements dans la couverture du sol redistribuent l'eau, explique l'un des 7 auteurs, Harry Stahl, qui est professeur adjoint en résilience des écosystèmes. La politique massive de reverdissement de l'Empire du Milieu, notamment sur le plateau de Loos, a certes restauré des écosystèmes, mais ces programmes ont déplacé l'eau douce d'une région à l'autre, aggravant parfois la sécheresse. Le phénomène repose sur un mécanisme bien connu des scientifiques. L'eau s'évapore des sols, puis est ensuite rejetée dans l'atmosphère par la transpiration des plantes, l'évapotranspiration. Mais à ce moment, elle augmente plus sensiblement que les précipitations et les vents peuvent transporter l'humidité sur des milliers de kilomètres. Et l'eau évaporée en un point retombe souvent bien plus loin sous forme de pluie. À échelle locale, on peut perdre plus d'eau qu'auparavant, d'où le constat d'un moins d'eau à l'est de la Chine et de davantage sur le plateau tibétain. Voilà, c'est la fin de notre émission. N'oubliez pas d'offrir ou de vous offrir le traditionnel brin de muguet dont la floraison avait au moins 10 jours d'avance cette année en raison de la douceur des températures. Mais muguet des villes et muguet des bois vivent différemment. Et si la météo reste un facteur important pour le muguet sauvage, pour celui des étals, tout est une question de précision presque scientifique. Les maraîchers utilisent une technique appelée forçage. Après une culture en plein champ, les griffes, c'est-à-dire les racines du muguet, sont stockées au froid, puis placées en serre chauffée pendant quelques semaines avant la date clé. En contrôlant température et humidité, la floraison est déclenchée au moment voulu. Bon long week-end à tous!
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.